Rémi Pelzer, extrait de Fantômes, Enfer et Damnation, Nouvelles Fantastiques. Les Golems. Je me souviens, un jour, avoir soumis l'une de mes nouvelles à la lecture de l'un de mes amis. Comme le sujet reposait sur l'existence des fantômes et des esprits, après qu'il m'en ait fait la critique, il posa une question qui me surprit. « Tu y crois ?»« Vois-tu, lui répondis-je, tu me poses cette question comme si elle s'imposait. » Pour y répondre, je dois d'abord te dire que dans mon cas, il ne s'agit pas de croyance. Ce que j'ai écrit dans ces quelques pages, lui dis-je, en montrant ma nouvelle, la dépasse. Il ne s'agit plus de croire ou de ne pas croire. La croyance n'est qu'un effet de l'esprit, une réaction chimique dans ton cerveau. On pense souvent que la croyance est une fin en soi et qu'elle porte la vérité. En réalité, la croyance vient justement du fait que l'on ne connaît pas la vérité. Il y a des siècles, on croyait que la Terre était plate et se trouvait au centre du monde. De nos jours encore, on croit à ce phénomène qu'est l'attraction terrestre, alors même que de nombreux savants ont démontré qu'elle n'a pas vraiment d'existence réelle. Car c'est de l'existence qu'il faut parler, non pas de la croyance. Ce qui est important pour une chose est qu'elle existe, non pas que l'on croit en elle. Dire que l'on croit en cette chose n'a aucune valeur. Néanmoins, affirmer qu'elle est, c'est un acte de création. Plus précisément, par l'écriture, la peinture ou la musique. J'écarte la parole à ce propos, car elle ne se compose que de vent qui souffle d'oreille en oreille, à chaque fois un peu moins violent. De plus, elle est propice à la fausseté, à l'impuissance et à l'impureté. Ainsi, en ce qui me concerne, il n'est pas question de savoir si je crois en ce que j'écris. Croire en ce que je fais serait en douter. Non, ce que j'écris est, à jamais. Pour chaque mot que je pose sur le papier, il existe quelque part dans le monde ce que ce mot désigne. Par exemple, lorsque j'écris « fantôme », alors ce fantôme existe. Et il en est de même pour tout ce que j'ai rédigé dans ma vie, ce que je rédigerai, ce que personne n'a jamais rédigé. C'est pour cela qu'à chaque mot correspond une part de vérité, une part d'existence. Il ne s'agit pas pour un écrivain de croire en ce qu'il fait, puisque justement il le fait, mais de créer le monde comme il a envie qu'il soit. Très bien, me dit mon ami. Admettons que ce que tu écris se réalise véritablement dans notre monde. Il faut tout de même admettre que les fantômes ne courent pas les rues. Je suppose donc qu'il y a plusieurs intensités d'existence. Si chaque mot représente une réalité, il y en a de plus fortes et de plus perceptibles que d'autres. En effet, répliquai-je, il est vrai que le fait d'écrire fantôme ne créera pas une entité qui soit perceptible par chaque homme. Mais au contraire, si au même moment, sur toute la Terre, chaque humain écrivait ce mot, alors je t'assure que la planète serait envahie de spectres. Cette dernière phrase amusa beaucoup mon ami, et je sentais par son sourire qu'il ne me croyait en aucune façon. Décidément, continuai-je, tu penses que je divague? Eh bien, je vais te raconter une aventure qui m'est arrivée il y a quelque temps, et dont je n'ai jamais parlé à personne. Mais puisque tu me pousses à démontrer sans retenue mon raisonnement, tu sauras tout. J'étais dans mon bureau très tard la nuit. Je mettais au point les dernières phrases d'une de mes nouvelles. Comme je n'avais pas dormi depuis des jours, mon esprit s'embrumait peu à peu et fiévreusement. Je me hâtais de mettre un point final à cette histoire. Tu n'as jamais pu la lire. Ne me demande pas pourquoi. Tu le sauras bientôt. Le sujet portait sur une femme très belle ayant réussi sa vie, mais cachant un terrible secret. Depuis la mort de son père devenu fou, l'esprit de ce dernier la poursuivait pour la battre comme elle avait été battue pendant son enfance. Lorsque je posai enfin mon crayon, exténué par la fatigue, je m'écroulai sur la table et je m'endormis aussitôt. Lorsque je me réveillai, le soleil était toujours couché. Un épais brouillard flottait devant mes yeux et je me rendis compte que je ne m'étais assoupi que quelques dizaines de minutes. Pendant un moment, je restais sans bouger afin de recouvrer mes sens. C'est alors qu'ils m'avertirent soudain d'une présence. Je percevais le son d'une respiration qui ne m'appartenait pas. Une chaleur douce et apaisante se propageait derrière mon dos. Lorsque je me retournai, j'eus une violente surprise. Il y avait une femme. Elle me tournait le dos et regardait par la fenêtre les douces lueurs des étoiles, l'horizon bleuté, le paysage peuplé de silhouettes sombres et inquiétantes, mues par le vent. Elle semblait ne pas m'avoir remarqué. Restant immobile, je n'osais la regarder. Elle portait un chemisier clair et une jupe fendue qui soulignait la longueur de ses jambes. En d'autres circonstances, j'aurais de suite réagi, mais je ne sais par quel sortilège cette présence me figeait à ce point. Il me semblait que cette femme n'avait aucune existence, et je pensais que je devais encore dormir. Cependant, ce qui me troublait le plus était qu'en un certain sens, cette apparition n'avait rien d'étonnant. Je connaissais cette femme depuis longtemps, même si c'était la première fois que je la voyais. Soudain, par une force inconnue, je me levai. Au même instant, elle se retourna. Lentement, tandis qu'elle tournait, j'observai les lignes de son visage, le grain de sa peau. En regardant sa bouche à peine entr'ouverte et sa poitrine qui oscillait au rythme de ses inspirations, je me sentais n'être plus qu'une plume, portée par l'air qu'elle respirait. De ses yeux, irradiait une lumière verte, presque envoûtante que la lueur bleutée de la lune, derrière elle, par la fenêtre, entourait d'un halo spectral. C'est en remarquant une de ses mèches de cheveux qui retombait sur sa joue gauche jusqu'au coin de ses lèvres que je compris qui elle était. Mentalement, je me traitais d'imbécile de ne pas l'avoir reconnue, mais je pensais qu'un esprit comme le mien, même capable d'imaginer les plus fabuleuses histoires, s'accrochait au réel autant que n'importe quel autre. Ainsi, même face à une situation si fantastique, je n'avais accepté la vérité que bien après qu'elle se soit révélée. La sensation d'avoir déjà vu cette femme m'avait en fait induite en erreur. Tandis que je la cherchais parmi mes souvenirs personnels, parmi les images que j'avais vues dans les journaux ou à la télévision, c'est bien plus profondément que se cachait la solution. Ou plutôt pas très loin, au bout de mon bras. Pendant un temps que je ne pus évaluer, nous nous regardâmes. En particulier, je l'admirais. Je me sentais à la fois fière et effrayée de ce qui venait de se réaliser. Brusquement, je compris que la situation devait évoluer, sans quoi ce que je vivais allait être brisé. Je pris la décision de m'avancer vers elle. Au même instant, la voix de la femme retentit dans la pièce, brisant le silence, tel un éclair dans l'obscurité. « Comment me trouvez-vous ? » me dit-elle. Je restai un instant sans voix, mais je lui répondis « Comme je vous ai créé. » Aussitôt, elle leva les mains vers moi, mais au lieu d'avancer, elle défaillit soudain et ses jambes cédèrent sous son poids. Poussée par un réflexe, je me jetai en avant et la rattrapai avant qu'elle ne touche le sol. Quand elle fut dans mes bras, elle se blottit contre moi et je ressentis la chaleur de son corps m'envahir totalement. Je la reposai sur le canapé dont je me sers pour lire ou pour me reposer lorsque je travaille tard. C'est sans aucun doute que je n'eusse imaginé un personnage de mes nouvelles reposant dessus, serré contre moi. Car cette femme, vois-tu, c'est moi qui l'avais créée. Le principal personnage de la nouvelle que je venais d'achever cette nuit-là, c'était elle. De ma propre main, j'avais donné vie à une femme qui se trouvait dans mon bureau. Pendant quelques instants, deux sentiments me tiraillèrent. Ceux de la fierté et de la propriété. En un certain sens, elle était ma création, ma chose. Si belle était-elle, et elle m'appartenait en tant que telle. Toutefois, je savais que celle qui était entre mes bras n'avait rien d'un Frankenstein féminin. Ce n'était pas une poupée vouée à satisfaire mes fantasmes. Au contraire, j'étais son père. Et en tant que telle, j'avais le devoir de la protéger. Néanmoins, cette chaleur qui se diffusait en moi, cette beauté dans ce visage, cette douceur dans ses mouvements, cette luminosité dans ses yeux, chassait en moi toute forme de raisonnement logique. Seuls mon cœur et mes sens s'exprimaient. Je lui caressais doucement les cheveux, tandis que sa main était posée sur ma joue. Dans cette posture, je sentis bientôt en moi une force me pousser vers elle lentement. De même, son sourire se figea en une expression que je perçus comme une demande de réconfort. Ses narines frémirent, ses yeux soulignèrent peu à peu la gravité de l'instant, tandis que leur lueur verte s'intensifiait. Enfin, je posai mes lèvres contre les siennes. C'est avec satisfaction que je la sentais se laisser aller à mon baiser. Tout mon corps frémissait comme s'il avait été traversé par un courant électrique. J'avais le sentiment que nous étions unis et que nous ne formions plus qu'un seul être. Je ne sentais plus le sol, et il me semblait que, léger comme l'air, je flottais à 1000 lieues de mon bureau. Mais soudain, je ressentis une forte brûlure sur mes lèvres et je relevai aussitôt la tête. Mon regard plongea dans celui de la créature que je tenais dans mes bras. Toute la douceur qui s'y trouvait avait disparu. Il n'y avait plus cette lueur envoûtante, mais au contraire, je sentais de la peur, comme si un événement terrible allait se dérouler. Soudain, je me relevai. J'avais réalisé ce que cela impliquait. Je me retournai vivement vers la porte. Au même instant, des coups y retentirent, brutaux, de telle manière que toute la pièce vibrait sous les assauts de celui qui frappait derrière. Tout à coup, la serrure céda et la porte s'ouvrit violemment. Dans l'encadrement de la porte, je vis un être massif. Ses jambes épaisses comme des troncs d'arbres soutenait un corps plein de muscles. Au bout de ses bras, qui semblaient façonnés de pierre, des mains immenses et osseuses se crispaient nerveusement. Son visage livide exprimait la haine. Sa bouche se tordait en un rictus bestial. Ses yeux brûlaient d'un feu infernal. Je me rendis compte à quel point il correspondait à la description que j'en avais faite dans ma nouvelle. Cette fois-ci, il ne me fallut que peu de temps pour comprendre que cet être était le père de la femme, ainsi que je l'avais extirpé de mon imagination. De prime abord, il ne me remarqua pas et commença à s'avancer vers sa fille, les mains en avant, dans je ne sais quel funeste destin. Je vis cette dernière se recroqueviller lentement, et je la sentis devenir une petite enfant effrayée par son père. Sans réfléchir, je réagis et m'élançai de toutes mes forces contre lui. Malheureusement, lorsque je le percutai de plein fouet, il ne broncha pas. Au contraire, Il prit conscience de ma présence et se retourna contre moi. Il me saisit par les épaules, me souleva, puis, après avoir longuement observé mon visage, me jeta comme un fétu de paille contre mon bureau. Pendant un moment, je me sentis voler, puis j'atterris lourdement. Autour de moi, des feuilles et des crayons s'envolèrent et s'éparpillèrent dans tous les sens. Pendant une seconde, je fus groggy, mais la scène qui se déroulait me remit d'attaque. Le monstre s'empara de sa fille, puis la tint en l'air. Cette dernière tentait désespérément de se libérer de ses mains d'acier, tandis qu'elle pleurait et hurlait. Des prières abominablement vaines sortaient de sa bouche, ce qui faisait rire son bourreau. Ce qui m'effraya le plus à cet instant fut l'idée que ce qui se déroulait devant moi, je l'avais moi-même écrit. La même scène, les mêmes mots. J'eus la même tentation de me maudire comme je maudissais ce golem que j'avais créé. Néanmoins, je décidai d'agir, car je pensais que j'avais encore quelque chance de sauver la fille en tuant le monstre. Je saisis un coup de papier et retournai à la charge. Trop préoccupé par son infernale besogne, il ne me vit pas lui planter l'instrument dans le cou. Aussitôt, il hurla et lâcha la fille qui retomba sans encombre. Par contre, je compris que ma vie désormais risquait beaucoup. Le monstre me saisit à nouveau, puis je retrouvai ma place parmi le matériel de bureau, à moitié assommé sur le sol. Seulement, cette fois-ci, il ne m'oublia pas et s'avança vers moi. D'un geste sec, il retira le coupe-papier de son cou et un liquide purulent commença à s'écouler de la blessure. Puis, il lança l'instrument au loin et leva les mains vers moi. Des hurlements s'échappaient de sa gorge, accentués par des jets de bave puants. Je commençais à croire à ma mort imminente lorsque soudain, sous ma main, je sentis ce qui me sauva. Sous ma main, il y avait les pages fraîchement écrites de ma nouvelle. Sans réfléchir, je les saisis et les levai vers le monstre. Aussitôt, celui-ci esquissa un mouvement de recul. Je savais déjà que la situation était renversée et que dès lors je l'avais maîtrisée. C'est au moment où le monstre avança de nouveau que je réduisis ma nouvelle en morceaux. Le feu qui brûlait dans les yeux du monstre s'éteignit sur le champ. Ses jambes devinrent frêles et il tomba sur le sol. Peu à peu, il parut se transformer en fumée et il devint transparent, immatériel. Finalement, il disparut. Seulement, lorsque je posai mon regard sur la femme, je compris qu'elle aussi se sublimait. Je me relevai et m'approchai d'elle. Au moment où je tentais de la toucher, mes doigts la traversèrent. Je savais qu'elle allait disparaître, mais je lus en son sourire que je ne devais pas être triste. Je lui avais donné naissance dans des circonstances très éprouvantes pour elle et pour moi. Mais durant sa courte existence, elle avait connu le bonheur d'aimer, de m'aimer. La dernière image que je garde d'elle est celle de ses yeux qui me traduisirent un émouvant adieu. À la suite de cela, je crois que je me suis effondrée de fatigue. Au réveil, la porte de la pièce avait retrouvé son état d'origine, mais mes fournitures du bureau jonchaient le sol, ainsi que ma nouvelle réduite en confettis. Un long silence se suivit, et c'est mon ami qui le rompit le premier. Très intéressante histoire. Décidément, tu n'as pas ton pareil pour en inventer de fabuleuses. Je suis sûre que tu en tirerais beaucoup de succès. Alors, tu penses que ce n'est qu'une histoire? Si tant est qu'elle a pu réellement se réaliser, ce ne peut être que dans ton esprit. Je crois que tu as rêvé. Après tant d'heures de travail, tu as confondu réel et imaginaire, et tu l'as dit toi-même, tu t'es assoupi. Sûrement es-tu tombé au sol en emportant les objets qui se trouvaient sur ton bureau. Ensuite, tu as rêvé, et, troublé par ce songe, tu as déchiré ta nouvelle inconsciemment. Ceci est tout à fait rationnel. Comprenant que la conversation ne pouvait évoluer, mon ami décida de s'éclipser. Il enfila un manteau, me salua et sortit. Tandis que je le surveillais, remontant l'allée de mon jardin, une soudaine vague de colère monta en moi. Quel ami ai-je là, pensais-je? Je bondis instamment au coin de la pièce, soulevai une lame de parquet sous laquelle se trouvent tous mes papiers importants et quelques autres objets de valeur, et j'en sortis une feuille. Sur celle-ci, je relus rapidement le nom de mon ami ainsi que l'histoire de ma vie que j'avais écrite il y a bien longtemps. De ma poche, j'extirpai un briquet et enflammai le papier. Lorsque j'eus jeté celui-ci, presque entièrement carbonisé dans la poubelle, je retournai près de la fenêtre. Dehors, mon ami n'avait pas encore atteint le bout du jardin, qu'il commençait déjà à se sublimer. Il semblait se transformer en fantôme, comme celui dont nous parlions peu avant. Mais cette fois-ci, il était le résultat d'une succession de mots qui brûlaient, non pas d'une succession de mots qui venaient d'être écrits. Finalement, mon ami perdit consistance et disparut, dissipé dans l'atmosphère, comme se dissipait la fumée au-dessus de ma corbeille à papier.